Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Heureuse de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin aujourd'hui. Il s'appelle Frédéric Boyenga Bofala. Il est docteur en droit international et européen, président de l'Union pour la République, mouvement national. Monsieur Boyenga, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Okapi. Bienvenue.
Merci, madame.
Alors, avec vous dans cet entretien, on va parler de vous. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment en RDC et même partout dans le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. On va parler de vos publications. Vous êtes auteur de plusieurs publications sur la situation politique en RDC et même au règlement des crises dans les Grands Lacs. On va en parler dans cette émission. Vous proposez même une piste de solution pour sortir la RDC de l'impasse dans laquelle elle se trouve actuellement. On va évoquer ça dans cette émission. Mais avant cela, on va faire un très grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Mbandaka, certain, de février 1960. C'est là où vous grandissez?
Non, j'ai quitté Mbandaka à l'âge de 1 an.
Pour aller où?
À Kinshasa.
Et c'est à Kinshasa où vous avez évolué, vous avez fait vos études primaires, secondaires?
Oui, et puis je suis allé en Europe.
Pour raison d'études?
Oui. J'ai étudié essentiellement à l'université de Lille 2. Et après l'université, bon voilà, après ma thèse en droit international et européen, j'ai enseigné une partie de ma vie à l'université de Lille 2 où j'enseignais les droits constitutionnels et communautaires, ce qu'on appelle aujourd'hui droit européen.
Est-ce que vous continuez à enseigner?
Non, maintenant je me consacre au Congo, mais en même temps je consulte.
Vous êtes marié, père de 3 enfants, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Bah, vous savez, la vie m'a donné un peu la chance de vivre. Dans notre condition humaine, on est toujours un peu choqué de voir ce qui se passe. Depuis un certain temps, on s'interroge un peu beaucoup sur le devenir de l'humanité. Et ce sont des questions existentielles comme ça qui vous interpellent, qui vous sortent de vos torpeurs pour essayer un peu de réagir. Bon, ce que je n'aime pas dans la vie, je ne sais pas. Il n'y a qu'une seule chose que je redoute aujourd'hui, c'est ne plus vivre. Lorsqu'on est dépositaire, lorsqu'on se sent dépositaire d'une mission qu'on considère comme sacrée ou une forme de sacerdoce, et c'est peut-être ça. Quand on n'a pas accompli l'œuvre, on s'interroge sur la finalité de la vie.
Et c'est quoi votre plat préféré?
Bon, vous savez, lorsque je suis ici à Kinshasa, bon, j'aime bien tout ce qui est légumes verts.
Et lorsque vous êtes en Europe?
Bon, je ne dirais pas que j'ai un plat préféré, mais bon, je suis un peu trop viande. Mais bon, je dois un peu laisser parce que ça commence à me poser des problèmes.
Alors, Monsieur Frédéric Boyenga Bofala, dans les années 80, vous manifestez votre engagement politique pour l'Afrique et son combat pour l'avenir de la jeunesse étudiantine africaine. Qu'est-ce qui vous a motivé?
Bon, je ne peux pas dire en 80 c'était un engagement politique, c'était un engagement des jeunesses, c'est-à-dire que les mouvements des jeunes, bon, nous sommes quand même les descendants de ce qu'on appelle la FEANF, hein, la Fédération des étudiants africains de l'époque. Bon, vous savez, moi je suis arrivé dans une ville Amiens où je réside. Bon, j'ai trouvé, il y avait une communauté des Aïrois et bon, nous n'étions pas organisés, hein, par rapport à d'autres communautés africaines étudiantes. Bon, avec quelques amis, quelques condisciples de l'époque, bon, nous avons décidé de mettre en place l'Union des étudiants aïrois. Bon, on l'a mis en place pour essayer un peu de régler des problèmes, vous savez.
Quel genre de problème, par exemple?
Oui, les problèmes des séjours des étudiants. Vous savez, les problèmes des aïrois ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Ne datent pas d'aujourd'hui. Bon, en France, bon, on s'était heurté aux problèmes des séjours, bon, fallait, sans organisation, c'était pas évident d'aller défendre les cas individuels. Bon, il fallait s'organiser. Avec une association de 1901 en France, hein, l'association à but non lucratif, nous avons mis en place cette association, l'Union des étudiants aïrois d'Amiens, pour sauvegarder les intérêts matériels et moraux des étudiants aïrois de l'époque. Et après cela, bon, j'ai été élu président de l'Union des étudiants africains d'Amiens. Bon, voilà, j'ai cheminé là-dessus, et puis bon...
Président des étudiants africains, parce que vous étiez très engagé.
Non, on est élu parce que, bon, soit on présente un profil. Et puis voilà, c'est tout. Et puis bon, j'étais élu aussi grâce au concours de certains amis qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité dans beaucoup de pays africains. Hein, c'est eux qui m'ont poussé parce que, bon, à l'époque, bon, les postes étaient vacants. Les postes du président des étudiants africains étaient vacants. Bon, à l'époque, j'avais mes aînés qui m'aimaient bien, par exemple à Brazzaville. J'ai un ami et frère, le colonel Pierre Mongo, qui m'a poussé à aller prendre cette présidence. Je l'ai pris. Il y a beaucoup de gens ici. Je cherche même un ami, un aîné qui a concouru à ça aussi. Le professeur René Loata, que j'ai perdu de vue. Ça, ce sont tous ces gens-là qui ont trouvé à l'époque que j'étais dynamique.
Alors, parler des intérêts des étudiants africains, parler de ces intérêts auprès des organisations internationales.
Non, au niveau de l'autorité française. Notre vie s'est située en France. Et vous savez, les problèmes des étrangers, bon, si vous n'avez pas une carte de séjour, vous n'étudiez pas. Donc, vous n'avez pas, avec tout ce qui s'en suit, les soins, ainsi de suite. Hein. Bon, donc... la caractéristique aussi des Congolais à l'époque, c'est que c'est un pays qui a produit pas mal de réfugiés politiques. Bon, donc il fallait suivre la vie des étudiants sans organisation, c'était pas évident. Donc il fallait organiser cette communauté en structure. Et nous avons fait beaucoup de choses. Hein, et puis ici, je reconnais beaucoup qui sont aujourd'hui au Congo ici et qui ont participé à cette action. Mais bon, je l'ai présidé, oui, j'ai présidé l'Union des étudiants. J'en suis un des fondateurs.
Et la politique des pays africains ne vous intéressait pas à cette époque-là?
À l'époque,
je parle des étudiants en général africains.
On suivait ce qui s'est passé dans mon pays, mais ce que les gens ici au Congo, partout en Afrique, doivent savoir, c'est que lorsqu'on est à l'étranger, nous sommes ce qu'on appelle ici nationalistes, mais on n'est plus patriotes. Parce qu'on est loin de chez nous. Alors, vous savez, je vais vous raconter, nous, on avait deux organisations du football. Et des fois, ça finissait par des bagarres, tellement qu'on aimait nos pays, on n'acceptait pas que les pays perdent. Hein. Et bon, les politiques africaines, à cette époque-là, vous savez, ce n'était pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements d'émancipation démocratique après les discours de la Baule, tout ça. Bon, on était tous un peu inféodés dans nos États. On aimait nos États, on suivait ce qui se passait. La préoccupation à l'époque, c'était quand même une préoccupation existentielle, sociale. Hein. Mais on suivait. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'engouement à la politique est plus prononcé qu'à cette époque-là.
C'est comme ça qu'en 2001, vous décidez de créer l'Union pour la République, mouvement national, alors que la politique ne vous intéressait pas trop. Mais comment, brusquement, vous vous y êtes retrouvé dedans?
Oh, madame, c'est une longue histoire. Vous savez, je n'aime pas citer les morts. Et je n'aime pas aussi citer les contemporains. Cette histoire-là de 2001, c'est une très longue histoire. Moi, je n'étais pas... Bon, à part les penchants, ces dynamismes que je pourrais dégager d'après les dires de miens, bon, la politique comme telle, ce n'était pas vraiment ma passion. Mais je suis rentré en politique par effraction, je dirais, par un hasard des circonstances. Bon, c'était que à 97, bon, il y a eu les choses qui ont changé au Congo. On commençait un peu à parler démocratisation. Bon, la situation n'était pas aussi claire. Bon, certains amis, certains... aînés, certaines personnes, professeurs d'université qui m'encadraient, qui m'ont demandé de proposer quelque chose pour la RDC, que j'ai toujours appelé Congo Zaïre. Hein, vous verrez, c'est que moi, pour moi, la République...
Vous êtes nostalgique?
Pas du tout.
Pourquoi vous appelez Congo Zaïre?
Madame,
parce que aujourd'hui, on l'appelle Congo, ce n'est plus le Zaïre.
Madame, la nostalgie, c'est une douleur. D'accord? C'est une douleur. Je serais opportuniste si je vous disais que j'ai plus vécu Zaïrois que Congolais. De 60 à 65, jusqu'à 71, c'est vrai, j'étais Congolais, mais j'avais quel âge? 11 ans. De 71 jusqu'à 97, donc à la chute de la Deuxième République, on a vécu, comme on dit, 30 ans Zaïrois. Au moins... je n'en sais rien, je suis un homme, je suis attaché aussi à certaines choses. Vous savez, madame, moi, à 70, j'avais 10 ans, j'ai défilé ici boulevard du 30 juin devant le roi Baudouin et la reine Fabiola, le président Mobutu et son épouse, pour fêter la le dixième anniversaire de l'indépendance de notre pays. Tout ça, c'est resté dans mon cœur d'un enfant. D'accord. Et on a vécu des choses qui nous rattachent aujourd'hui. Tiens, je vous dis, on est en train de vivre là les obsèques du grand boxeur Mohamed Ali. Vous savez, tout ça, ça faisait partie des choses qui rattachent un homme à sa nation. Oui, 73 ou 74, nous gagnons ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations avec Moseka. Comment voulez-vous oublier tout ça?
Non, on ne vous demande pas d'oublier, on n'oublie pas.
Voilà.
Mais aujourd'hui, le Zaïre s'appelle RDC Congo.
Mais bien entendu, lorsque j'ai écrit dans mes ouvrages, en dehors de ce que j'ai écrit au départ, par cette nostalgie, moi, vous savez, pour moi, ma nation, c'est Congo-Zaïre. Ma république, c'est la République démocratique du Congo. N'en déplaise à qui que ce soit, c'est la vérité pour moi.
Pour l'instant, est-ce que vous êtes passionné? Est-ce que vous avez pris goût à la politique? Puisqu'au début, ce n'était pas votre part.
Non, j'ai pris goût à la politique d'une autre manière. Je ne suis pas, si je ne suis pas connu, c'est parce que je n'exerce pas dans la théâtralité, madame.
Qu'est-ce que vous ne connaissez pas?
J'arrive, madame.
Ça.
Madame, je vous ai dit, moi, la politique pour moi, c'est un sacerdoce. Je réponds à un besoin. Je vois, depuis 2001, c'est vrai, on a essayé de faire des efforts pour mettre en place la démocratisation du pays, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore. La preuve, c'est que si vous, aujourd'hui, Radio Okapi, vous êtes la radio de la MONUSCO, effectivement, c'est parce qu'il y a des problèmes dans notre pays. Et je ne pouvais pas rester insensible à la situation de mon pays. Je devrais faire des projets. Je devrais agir, faire la politique autrement. Autrement, quand je dis théâtralité, je vais dire, bon, moi je ne fais pas la politique là pour occuper seulement un poste ou pour vivre pas du tout. Beaucoup n'en font pas non plus. Mais je dis, on fait la politique pour répondre à une situation. Il y a un musicien congolais qui dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, « Bayakanavi à Moninga, pour eux-mêmes il n'y a pas de problème t'es. » Mais pour y aller, moi, bonheur. Et pour moi, je dis ceci, on ne fait pas la politique pour créer des problèmes à son pays, mais pour en résoudre. C'est ça qui m'a conduit, depuis le temps, à poser la question sur pourquoi mon pays aujourd'hui ne fonctionne pas. Cette crise des Grands Lacs, c'est quoi? Comment faire pour nous en sortir? Comment faire pour rassembler tout ce qui est parti, tous les Congolais? Comment faire?
Et donc vous apportez les solutions?
Vous avez parlé tout à l'heure vous-même de mes ouvrages, de mes publications. Ça témoigne de mon travail.
Publications qui ne sont pas lues par la majorité des Congolais.
Non, vous ne pouvez pas dire ça, madame. Vous savez, aujourd'hui, la preuve, regardez, ce sont des ouvrages qui ne sont pas vendus. Ce sont des ouvrages que je donne gratuitement parce que j'estime pour
vous
moi.
Vous le donnez gratuitement en Europe où vous vivez?
Non,
est-ce
non,
que
non,
vous
non.
les distribuez aux Congolais?
Oui,
ici
beaucoup de gens l'ont. Même ici, là, chez vous, la MONUSCO, s'inspire de beaucoup de mes écrits. Je l'ai dit ici chez vous. Lisez bien ce que vous avez, l'Alliance, comment mettre fin à la crise des Grands Lacs, et vous verrez la plupart de mes propositions ont été réplées ici. Mais c'est bien, je l'ai fait pour mon pays. Et j'assume. Moi, ces ouvrages, non, madame, les ouvrages sont lus au Congo et comme en Europe. Ici, nous avons un petit bureau ici dans lequel nous envoyons tous nos ouvrages, ils sont ici. Beaucoup de gens l'ont lu.
C'est destiné à une certaine catégorie
pas
de personnes.
Tout.
Est-ce
non.
que le petit peuple
madame,
est au courant de ce que vous proposez comme solution pour sortir la RDC de la crise?
Bien entendu, parce que j'ai fait plusieurs émissions. Si vous avez suivi, vous verrez que aujourd'hui pour vous, c'est une émission radio, mais j'ai fait plusieurs émissions à la télévision.
Vous savez qu'on a un problème de courant. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint tout le monde, la cible?
Non, non, madame. Si
pourquoi vous ne faites pas des descentes sur terrain?
Non. Mais bien entendu, madame. Vous savez, les descentes sur le terrain, ce n'est pas haranguer la foule. Depuis que je suis ici, les nuits, je fréquente les endroits, voire poser des questions. J'ai écouté. J'écoute les gens. Moi, je n'ai pas besoin aujourd'hui de demander aux Congolais, oui, comme ça, sortez dans la rue pour casser ou pour faire ceci. Je ne dis pas que les autres font ça. Moi, je fais l'expertise d'abord des choses. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'écouter. Et ce n'est qu'après réflexion, après avoir écouté, j'ai fait les propositions dont vous avez des exemplaires aujourd'hui.
Alors, votre parti politique existe depuis 2001, parti officiellement, comme vous dites,
non,
enregistré
pas comme je dis.
En RDC, voilà. Parti officiellement, ouais. Enregistré ouais. En RDC, qu'on n'entend presque pas, hein, ouais. On n'entend pas parler de bien votre parti politique, mm-hmm. Pourquoi ?
Madame, on attend ce qu'il faut s'y faire. Moi, la politique...
Mais vous devez vous faire connaître.
Mais voilà, le temps a sonné que je suis là. Il est arrivé des moments où j'ai dit, j'ai laissé les choses se faire parce qu'il ne s'agissait pas pour moi de venir encore jeter des troubles dans tout ce qui est en train de se faire. Mais madame, vous regarderez partout. Il n'y a aucun parti qui a proposé comme le nôtre. Et vous le savez. Vous le savez, il n'y en a pas. Vous sortez ici, vous posez des questions. Quelles sont les visions ? Quels sont les projets de société des uns et des autres? Vous n'en trouvez pas. Un projet de société, on ne les cache pas dans les tiroirs. On les publie. On donne à la population de prendre connaissance.
Il y a des partis qui ont publié, M. Boyenga.
Madame, publier un ouvrage personnel, ce n'est pas ça. Publier un projet de société.
Je parle des projets de société.
Dans quelles éditions? Je n'ai pas pris connaissance, comme vous avez dit. Je ne sais pas. Mais moi, mes propositions, presque beaucoup de partis l'ont. Parce que je donne à tous les partis. Parce que j'estime mes compatriotes, que ce soit de la majorité, que ce soit dans l'opposition, doivent savoir ce que j'ai fait. J'accompagne ces mouvements-là de changement dans notre pays, et donc je propose à tout le monde. Ce que vous dites, moi je ne conteste pas que quelqu'un ait lu, mais je n'ai pas vu de projet de société écrit et publié.
Alors vous dites que le temps est arrivé pour vous faire connaître, votre parti politique.
Non, madame.
Si.
J'ai pas dit ça.
J'ai posé la question. Votre parti n'est pas connu. Vous m'avez répondu.
Non.
Le temps est arrivé.
Madame, vous m'avez dit pourquoi vous ne vous faites pas connaître. Je vous dis... Si vous me parlez de la théâtralité, c'est-à-dire ce qu'il faut s'y faire, ce qui font des manifestations légitimes, tout ça, oui, je n'ai pas engagé mon parti dans cette voie-là. Moi, c'était la voie de la réflexion. Poser de véritables questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment nous en sortir? C'était ça ma démarche. Lorsque je déposais la reconnaissance du parti, c'était parce que ça a été conseillé par certains responsables au niveau international, je l'ai fait parce que je voulais travailler dans la clarté. Lorsque j'ai dit, moi je ne fais pas la politique, c'est vrai, c'est peut-être ma nature, demander aux Congolais de sortir dans la rue, tout ça, bon, ce n'est pas ma vision, j'avoue. Moi j'ai voulu me faire connaître par mes projets, par mes propositions. La preuve c'est que je suis plus connu, c'est vrai, là, c'est peut-être un tort, je suis plus connu par les instances internationales.
Voilà,
par la population.
C'est un
oui.
problème ça.
Non, madame. Vous savez, chez nous, on dit Sokolingi, Oyebandoki, Fomelanandoki. Le problème de la RDC, vous savez, madame, la RDC n'est pas un acteur politique aujourd'hui. La RDC, c'est un enjeu politique et économique. Si vous voulez résoudre les questions qui se posent en RDC, vous devez essayer de prendre la mesure de toutes les puissances sur cette question de la RDC qui commence depuis 1997. Pourquoi il y a la MONUSCO ici, ça veut tout dire. Donc il faut essayer d'écouter toutes les chancelleries, sans pour autant perdre son âme des Congolais. J'ai écouté toutes mes propositions, c'est après avoir écouté les uns et les autres. Je voulais savoir, qu'est-ce que l'extérieur attend du Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo? Lorsque ce travail est fini pour moi, c'est-à-dire où j'ai essayé de pénétrer un peu les vraies raisons de la crise congolaise, et j'ai publié après, je me dis, bon, maintenant, je vais aller parler à mon peuple. Parce que si vous ignorez, la plupart ici...
Et ça coïncide avec la période où on parle dialogue.
Non, pas du tout.
Est-ce que vous ne voulez pas vous greffer aussi pour participer à ce dialogue, M. Boyenga?
Madame, je vais vous dire une chose, je n'ai jamais fait la politique pour attendre quoi que ce soit, sinon, il y a longtemps, j'y serais déjà. Je ne fais pas la politique pour un besoin économique, vous le savez. Sinon, on n'offre pas ces ouvrages gratuits, madame, on les vend. Moi, je ne fais pas ça pour ça. Vous savez, cette fois, j'ai vu que le pays était dans l'impasse. Et il y a eu des responsables d'État, des responsables politiques de l'État, avec qui nous avons eu des discussions, qui m'ont demandé comment nous en sortir. Quelle est votre vision?
Et vous en demandez-vous en tant que, en tant qu'expert, en tant que collègue politicien, président d'un parti politique?
Non. Parce que si vous ne me connaissez pas, mais la haute sphère de la République sait qui je suis. Ils savent qui je suis. Et je suis quelqu'un qui travaille. Et j'ai dit, je l'ai redit encore, sur ce point-là, mon parti n'a pas d'adversaire. Vous savez, madame, on est aujourd'hui sur un point où les gens sont en train de débattre sur comment sortir de l'impasse. Mais madame, dites-moi, qui a fait aujourd'hui au Congo un plan cohérent? Je ne dis pas que ce soit le meilleur, ce plan-là. Pas du tout. Mais qui propose aujourd'hui à la nation, à la communauté internationale, un schéma, une démarche, dites-le-moi.
Alors, on va parler de votre démarche, des propositions que vous faites pour sortir la RDC de la crise, monsieur Boyenga.
Non, Boyenga, vous faites la Frédéric, madame.
Monsieur Boyenga, c'est pas votre nom. Boyenga,
oui,
c'est pas votre nom. Vous voulez
pas...
que je. Boyenga Bofala Frédéric, voilà. Avant de parler de vos propositions, dites-moi, votre parti politique, il est de quelle tendance? Majorité ou opposition?
Non, nous faisons partie de la chambre du milieu.
Il paraît que la chambre du milieu n'existe pas.
Oui, c'est vous, parce que les pays...
Il paraît que ça n'existe pas lors des élections. On se range on vote soit pour... se rallie soit à l'opposition, soit à la majorité.
Madame, ça, ce sont les conceptions archaïques qui règnent dans vos pays, dans nos pays. Vous savez, on peut aussi être dans la synthèse, madame. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui calque. Les enseignements que j'ai reçus dans ma vie me permettent de développer d'autres choses. On n'est pas forcément obligé. Si vous me dites être dans la majorité, c'est-à-dire être au pouvoir, je ne le suis pas, bien entendu. D'accord? Si vous me dites être dans l'opposition, c'est-à-dire ne pas être au pouvoir, oui, je le suis, dans l'opposition. D'accord? Mais moi, mon opposition, ce n'est pas une opposition systématique. Une opposition qui consiste à construire ensemble. C'est pour cela que je parle toujours de cette troisième voie, la voie de la réunification. D'accord? Bon, quand je dis troisième, quand je dis chambre du milieu... Et vous savez, on n'est pas toujours obligé d'être de gauche ou de droite. Mais vous savez, les centres aussi, c'est un positionnement.
Alors, on va souffler un tout petit peu. Frédéric Boyenga Bofala, comment vous passez vos moments de détente?
Ceux qui me connaissent, ils vont diront que je suis un peu un homme seul. Ma vie...
Vous aimez la solitude?
Ben, c'est peut-être un trait qui me caractérise. Ce qui a poussé les gens à dire que oui, c'est un homme... qui est difficilement accessible. Il y en a même qui ont dit que j'étais glacial, tout ça. Non. Je trouve ma jouissance dans la réflexion et dans la solitude qu'autre chose.
Mais maintenant que vous vous engagez un peu plus en politique, vous serez obligé
de
vous rapprocher de la population.
Mais bien entendu, je l'ai fait à ma manière. Quand je suis ici à Kinshasa, bon, la journée, la nuit, des fois, je circule, je vais écouter. Vous savez, je suis allé même dans des bars, pas pour boire, je vois pas. Mais il y a quelques temps, j'étais à l'avenue Kabandare la nuit, avec un boucan, mais je voulais écouter les gens. J'ai écouté. Je sais ce que les peuples pensent aujourd'hui, voyez. Et je l'ai fait, je côtoie un peu tout le monde. Il m'arrive même des fois de m'arrêter à l'église. Et je discute, j'attends les questions. J'ai fait ça, bon, je n'ai que ça peut-être pour l'instant. C'est ma nature.
Est-ce que vous aimez la musique? Vous écoutez un peu de musique?
Oui, j'écoute beaucoup des musiques, mais bon, je ne danse pas.
Quel genre de musique?
Bon, écoutez, ce serait un peu prétentieux de les dire, mais bon, vous savez, je suis... C'est un mélange. Bon, si vous venez chez moi, bon, il y a du classique. Et puis, il y a la musique de la RDC que je raffole dans les mélodies, oui. Bon, il y a des grands musiciens ici, hein. Mais moi, je suis un peu de l'ancienne école. À l'époque, quand je suis étudiant, bon, celui qui m'inspirait un peu beaucoup, c'était M. Koffi Olomide. Bon, les thèmes étaient un peu les thèmes romancés, hein. Romancés, c'était bien, mais bon, nous avons quand même, moi, né en 60, grandi un peu. Je suis un peu plus Zaïko, hein. Zaïko, la tournée, et consort. Hein, bon, et puis après, bon, celui qui vient de nous quitter a été aussi, je vais parler de...
De Papa Wemba?
Oui, on ne peut pas ne pas les citer, mais dans les anciens, bon, vous savez, je faisais un peu comparaison au K-Jazz, à Frisa de l'époque, bon, écoutez, voilà. Mais actuellement, bon, ce que je n'aime pas, c'est la tournée que ça a pris.
ça veut dire ?
Non, on avait beaucoup de mélodies, mais maintenant, quand j'entends les litanies des noms qu'on cite, ça me fait mal. Ça me fait un peu très mal. Je ne dis pas ça pour... Bon, c'est devenu un peu commercial, je peux comprendre la conjoncture, hein. Mais j'aimais bien les bonnes mélodies. Vous savez, quand vous écoutez Omba, quel est l'orchestre ?
De J.B. Piano ?
Oui. Oui, j'aimais. Vous écoutez la profondeur. J'étais étonné, parce que quand quelqu'un dit.
Ça vous ferait plaisir d'écouter ça.
Ah oui, ouvre ton cœur pour que je vienne y passer la nuit. Mais vous imaginez ça, hein? J'adore. Puis il y a le jeune là, l'actuel, on appelle DiCaprio, hein, c'est ça?
Fali.
Ah oui, je trouve. Bon, ah, je vais vous raconter une histoire. C'est que, vous savez, j'ai ma fille qui est dans les modélismes. Il y a un Fashion Week. Il y avait ce monsieur, tiens bon, qui a pris la photo avec ma fille qui ne connaît rien du pays. Il dit, ah papa, j'ai pris une photo avec un musicien congolais. Il me montre, il dit, ah tiens, je dis oui, c'est ton pays, hein. Voilà.
On va souffler avec un petit extrait de Omba de
Chibé Mpiana. Ah, ça, ce serait une autre chose.
Ouais, voilà.
Mais j'aimerais pas que les autres pensent que je les oublie. Non, je les aime tous.
Voilà, juste un extrait de Omba de Chibé Mpiana pour le plaisir de notre invité du jour, Frédéric Boyenga Boufala, qui est docteur en droit international et président de l'Union pour la République, un mouvement national, mais également pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur la fréquence FM et partout à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Bakangaka mon pépété, Ange Nkoyi, Constance Asumani, Laurette, Blandine Kandolo. Est-ce que beaucoup y'a kate? Dodon Deko. Oumbana Salinyoko, Oyo Mobali Yasolo, Asala Kaso Kiali, Toa Komiso Banaboli. Kasi babo tino baboyi, yanga no to kwelana, kon azali moto ya rejon mosusuwe. Na sali bakarem, na groupe de prière, na komi fere en Christ pona yo omba. Kasi patience et zagingayi, kon alanda ki se profi, lokole umeli. Omba na komi luka mamwe. Natali gauche droite, Nicolompe nase, Namoni nanite, Oyako yame langai, Mokumba mpe bozito, Yabolingo na mimi, Obome zamate, Omba na komi zoba zoba. Basala kili kopana, Bavye na babo, Me babo kite, Chako chako kon, Le chef de mission. Asala kaso ki alimito akomizo bana bolingo. Kasi babo tino baboyi, yanga noto kwelana. Ona sali moto a rejo monsusue. Asali bakaren, na goupe de priye. Na komisera triste pona yo gomba. Kasi patience sa gingayi, kona landa ki se bote, lokole umeli. Mana komi luka mamwe. Natali gauche droite, Nicolo penase. Namoni nanite, boya boya mela kai. Mokumba mpe bozito, ya bolingo na mimi. Bobombe sa mate. Ya wana komi zoba zoba. Ah, le grand saoudien, Adam Bombole, l'homme qui affronte la conjoncture. Soit la hausse ou la baisse du dollar, il est présent.
On m'a fait qu'il y a un salissé à ma loba. N'a fait qu'il y a aussi qu'à mon demande à polele. Pour un bon ayananga, il a pas la moïdie. N'a y a pas la lana, ça t'a mon demande. Bye.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
C'est moi, vous venez vous prier aujourd'hui Frédéric Boenga Bofala, docteur en droit international européen, président de l'Union pour la République, mouvement national. Alors Frédéric Boenga Bofala, j'ai dit que vous étiez auteur de plusieurs publications sur la situation politique en RDC et règlement de la crise des Grands Lacs. Vous avez par exemple écrit Congo Zaïre, refaire la République, mission sacrée d'une génération en 2001. Et puis Congo Zaïre, notre cause, les messages et les ambitions d'une justice, d'une juste cause en 2003. Et puis au nom du Congo Zaïre en 2011, la tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo, un révisionnisme dangereux pour l'Afrique du principe de
multipossibilitis juris.
Voilà, voilà. Alors, Monsieur Frédéric Boenga Bofala, vous avez une autre publication dans laquelle vous parlez de la mise en place de la gérancia. C'est quoi la gérancia?
Madame, la gérancia, c'est un conseil national de nos anciens pour faciliter et coordonner le dialogue national. Pourquoi je l'ai proposé? Malgré les tentatives des Nations Unies pour essayer d'unir les Congolais dans un dialogue, les travaux, ces tentatives, que ce soit par M. Djinit et par M. Edem Kodjo, n'ont pas abouti. Parce que je comprends que ces gens-là n'ont pas la maîtrise des données nationales. Pour moi, il était temps que nous essayions un peu de redorer, de remettre nos aînés en place, qu'ils sortent de leur torpeur pour qu'ils nous aident à cheminer ensemble vers ce dialogue que je trouve salvateur. C'est pour cela que j'ai dit que les Congolais doivent parler aux Congolais, que les Congolais doivent reprendre la maîtrise de leur dialogue, les Congolais doivent s'approprier de ces dialogues, et le seul moyen pour nous, c'était d'être réunis par nos anciens. Donc on mettra en place ce conseil des anciens qui jouera le rôle aujourd'hui des facilitateurs et de la coordination du dialogue.
Alors, vous faites allusion à qui lorsque vous parlez des anciens? Les anciens, ils sont nombreux.
Oui, j'ai commencé par citer le cardinal Mosengo, j'ai cité Monseigneur Bodo Marini, j'ai cité Etienne Tshisekedi, j'ai cité Léon Kengo, Lunda Bululu, Madame Nzuzu Ambombo, y a tout un nombre de gens, Mungulu Tapangane, Vundawe, Arthur Zeidi Ngoma, Madame Ngouz, l'ancienne épouse de M. Ngouz, Carly Bond, il y a beaucoup. Boboli Kolokonga, et ainsi de suite.
Mais est-ce que ça risque pas de faire trop?
Pas du tout. Ce que j'ai fait là, ce n'est qu'une direction. Vous préférez quoi? Les panels des experts dits internationaux ou vous-même? Madame, lorsqu'on a un problème dans sa maison, on appelle les gens des maisons, on n'a pas besoin d'aller frapper chez les voisins. Vous voulez dire que nos anciens n'ont pas la maîtrise? Ils ont la maîtrise de nous réunir parce qu'ils connaissent nos histoires. Je ne vois pas la tentative avec Edem Kodjo. Si elle a échoué, c'est parce que, monsieur, que je respecte, c'est mon grand, ça n'a pas marché parce qu'il ne connaît pas nos réalités.
Mais la plupart des personnalités que vous citez sont alignées et on connaît les tendances politiques de certaines personnalités. Vous pensez qu'ils seront neutres? On a besoin des personnes neutres pour ce dialogue, pour faciliter ce dialogue.
Madame, que Dieu est neutre, vous croyez? Non, il est temps qu'on se donne confiance les uns les autres.
Votre dernière publication, c'est sur la question de la révision constitutionnelle, comment sortir de l'impasse. Là, vous donnez votre point de vue et vous proposez un plan, en fait, de sortir la RDC de la situation, de la crise dans laquelle elle se trouve actuellement. On a le dialogue proposé par le chef de l'État qui est boudé par l'opposition qui propose aussi son plan. Le processus est bloqué. Qu'est-ce que vous nous apportez comme solution, M. Frédéric Boenga Bofala? Madame, que vous dites que tout le monde n'a pas proposé des solutions pour sortir de cette crise. Vous êtes la seule personne à venir avec des propositions.
Vous l'avez devant vous.
Parlez aux auditeurs des radios.
Mais oui, mais non, parce que ce que vous venez de dire, c'est une évidence que vous avez devant sous vos yeux, n'est-ce pas? Bien. Madame, j'ai écrit « Comment sortir de l'impasse ». Vous savez, madame, pourquoi, lorsqu'on a un problème dans un pays, il ne faut pas le fuir. Nous avons commencé par la question des révisions constitutionnelles de l'article 220. J'ai donné ma position en juriste et j'ai dit « Si en droit, une telle révision est possible, parce qu'en droit, les principes de l'immutabilité constitutionnelle absolue n'existaient pas, mais les contextes politiques ne permettaient pas. » Sinon, ça paraissait une forme de hold-up politique. S'il fallait le faire, vous savez, ça nous demanderait beaucoup de choses. Mais sachez une chose, que les constituants peuvent abroger cet article-là dans des conditions normales. Lorsque l'ordre politique, l'ordre juridique d'un État, lorsque nous sommes dans la paix, abroger une disposition constitutionnelle, ce n'est pas un problème. Mais le contexte aujourd'hui politique ne nous permet pas de le faire. Et j'ai dépassé ça. J'arrive, madame. La question aujourd'hui que les gens ne veulent pas évoquer, c'était quand même l'avenir de l'actuel président de la République. Je suis honnête, moi, de les dire quand les autres les cachent. Sinon, on n'aurait pas la question de l'article 220. On n'aurait pas aujourd'hui la question de l'article 70 alinéa 2. C'est parce qu'il y a un problème qui se pose. Et moi, quand il y a un problème qui se pose, j'ai dit quelle solution trouver? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, voilà. Sur la révision constitutionnelle, j'ai démontré qu'en droit du contentieux constitutionnel, il était possible. Mais le contexte politique n'y plaide pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des propositions. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que la question, c'était l'avenir du chef de l'État, son statut à venir. J'ai proposé la mise en place d'un suprême conseil constitutionnel qui regrouperait tous les chefs de l'État congolais, avec un mandat à vie, et tous les anciens présidents et tous les anciens premiers ministres avec un mandat de 7 ans. Et cet conseil, suprême conseil constitutionnel, aura à son sein l'actuelle cour constitutionnelle.
Est-ce que bon, c'est pas une institution de plus? Est-ce que vous pensez
pas
que
c'est faisable? Non, c'est faisable, madame. Non.
Vous dites que cette institution devra exercer
les compétences actuellement dévolues à la cour constitutionnelle. C'est-à-dire, madame, les gens qui connaissent un peu certaines organisations étatiques sur les institutions, il était possible que nous essayions de faire dans une même institution la cour et cette partie politique. Vous savez, si vous prenez le conseil d'État en France, à l'intérieur, il y a des sections. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Il y a les sections du contentieux, il y a des sections fiscales, il y a tout. Moi, je suis allé dans cette voie uniquement pour débloquer la situation. Mais il n'y a pas que ça comme proposition.
Mais ça risque de poser encore problème, monsieur Boeing. Déjà qu'on a un problème de moyens au pays, lorsque vous proposez qu'on mette en place cette institution,
oui,
elle va fonctionner avec quels moyens?
Mais quels moyens? Parce que cette institution-là, madame, jouera les rôles actuellement dévolus à la Cour constitutionnelle.
Et la Cour deviendra
Cour, c'est un élément de cette suprême conseil constitutionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inventivité juridique. Il est là. On peut le faire. Je n'ai qu'un objectif, madame. Sortir le pays de l'impasse. Vous citez un exemple là. Mais il n'y a pas que ça.
Alors, vous parlez aussi du recensement général de la population.
Oui.
Ça, c'est pas nouveau?
Non. Je l'ai fait, moi. Je l'ai écrit au nom du Congo Zaïre. Je l'ai écrit. Personne ne l'a écrit. On dit. Parce que dans notre pays, madame, il y a ce que moi j'appelle la malhonnêteté intellectuelle. On cite mes propositions. Mais on ne me cite pas. Mais dans des pays développés où l'intellectualité règne, quand on cite un élément écrit par une autre personne, on cite l'auteur. On cite l'auteur. Ça, c'est moi, madame. Et j'ai donné même, et c'est depuis les 1 plus 4 que je l'ai proposé. Pourquoi je l'ai dit, madame? Il faut réunir tout ce qui est éparse. Il faut aujourd'hui, madame, réunir tous les Congolais. Pour réunir tous les Congolais, il faut les recenser. Pour les recenser, madame, il faut les unir. Pour les unir, il faut les recenser. Pour moi, madame, si nous voulons aujourd'hui avoir des élections crédibles, madame, dites-moi, vous connaissez un pays au monde où la population n'a pas une carte nationale d'identité? Il n'y a qu'en RDC, madame. Aujourd'hui, en RDC, il y a ce qu'on appelle les Congolais de la diaspora et les Congolais en place. Il est temps, madame, que par un processus, une forme de maïétique, que tous les Congolais soient unis dans une forme de chaîne d'union nationale. Pour cela, madame, prenons le temps. Recensons tous les Congolais. Vous savez, en Europe, c'est même plus facile.
Et c'est seulement après qu'on pourrait organiser les élections.
Et moi, ma démarche, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Vos histoires-là de fichiers électoraux, c'est de la bêtise. Avant d'avoir un fichier électoral, il faut avoir un recensement. Vous le faites sur quelle base, madame? Je n'adhère pas. Prenons le temps, recensons tous les Congolais. On est en train de laisser les Congolais qui sont à l'étranger comme étant des ennemis de la République. Non, il est temps que... Vous savez, un tel recensement, avec l'appui de la communauté internationale, les moyens, la MONUSCO est là. Nous pouvons les recenser. Mon équipe, mon centre d'analyse et de prévision a donné 3 formes de recensement et vous l'avez là. On peut les faire en 1 an et 6 mois. On peut aussi les faire en 1 an. Pour moi, madame, nous devons aujourd'hui mettre en place les bases d'un véritable État, ce que j'appelle la statualité, madame.
Vous parlez aussi de l'adoption d'un moratoire électoral,
oui.
Monsieur Boinga.
Oui, madame, justement, ce moratoire électoral est là, c'est-à-dire il faut d'abord que nous mettons en place des véritables réformes. Je demande qu'on décale les élections. Pourquoi, madame? Madame, moi, je ne fais pas la politique pour moi. Tu sais, la politique de haute toi de là pour que je m'y mette. Non.
Moi, vous parlez de combien d'années? Une année, non, 2 ans, le temps de faire le recensement?
Madame, j'arrive. Recensons les Congolais, revenons, parce que nous sommes en démocratie, revenons sur les principes d'une élection à deux tours, revoyons cette décentralisation qui nous pose.
Et là, il faudra toucher à la Constitution.
Mais bien sûr, madame, mais bien entendu, pourquoi pas, bien entendu, toucher la Constitution. Je vous ai dit, le principe de l'immutabilité constitutionnelle n'existe pas, madame. Si vous voulez résoudre des problèmes, vous le faites quoi? Vous savez, madame, souvenez-vous, cette politique qui consiste toujours à dire « Akende kaka tokota la sima », vous l'avez fait avec Mobutu. Quand vous n'avez pas une vision, quand vous n'avez pas un véritable projet, après, madame, vous vivez ce que nous vivons aujourd'hui. Soyons responsables. Ne faisons pas les choses dans la précipitation inconsidérée. Il nous faut une véritable réflexion approfondie sur l'avenir de notre pays, madame. Prenons le temps, prenons le temps. J'ai aujourd'hui 56 ans. Je souhaiterais que les 20 peut-être, ou les 20 ou 25 années qui me restent, que je me consacre au pays. Pour cela, je ne me précipite pas, je ne fais pas la politique pour moi. Mon peuple a de véritables problèmes. Je vis ici l'exclusion sociale, madame des Congolais. Depuis un certain temps, on ne parle que des politiques. Quelle est la politique? Qui va être ceci? Et tout le monde est là sur le starting block. Tout le monde veut devenir président en RDC. Tout le monde. C'est-à-dire il y a des gens qui ne s'interdisent même pas certaines ambitions. Ah, il veut être président de la République. Et moi, des fois, j'en ris, madame. Qui parle aujourd'hui des véritables? Je suis là à Kine. Je vois les problèmes de l'eau, de ceci, des transports, tout ça. Ces problèmes-là, nous devons aussi en parler lors de ces dialogues. Madame.
Alors, la réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va aller sur la 5e proposition, c'est un moratoire sur la décentralisation. Vous pensez qu'on n'est pas prêt?
Madame, vous savez pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai dit, madame? Lorsqu'il y a décentralisation, c'est un transfert des compétences du centre vers la périphérie. Ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est une tentative qui a été faite dans les années 60, je reconnais, avec le gouvernement Adoula. C'est dépeçage, c'est morcellement des territoires. Je ne suis pas contre. Pour moi, le temps n'est pas propice. Lorsque vous voyez aussi les découpages, bon, c'est un peu des découpages un peu ethniques et tout ça, mais ce n'est pas un problème. Je vis des régions qui sont hyper pauvres. Et ça va poser de problème. Qu'est-ce que je propose, moi, madame? Je dis ceci, j'arrive, madame. On peut toujours garder les provinces-là, que j'appelle des provinces 7, telles que c'est DPC aujourd'hui, mais le transfert des compétences ne doit pas se faire au niveau entre l'État et ses provinces. Je dis, ces provinces-là doivent être à l'intérieur d'une région. Par exemple, il y aura la région du Katanga, et à l'intérieur, il y a toutes les provinces-là. C'est-à-dire que le transfert des compétences se fera de l'État à la région et les provinces ne seront que des administrations de proximité, parce qu'on ne peut pas quitter, je ne sais pas, prenons à l'Équateur, quitter Guadeloupe pour aller en Mbandaka faire sa carte d'identité. Pour moi, ces provinces-là ont leur rôle, mais le pouvoir décentralisé doit faire au profit de la région. Et puis, vous dites décentralisation politique. Mais une décentralisation, madame, doit être accompagnée de moyens économiques. On transfère quoi? Pour un pays qui n'a pas d'industrie, pour un pays qui ne produit rien, vous faites quoi votre décentralisation? Avec quels moyens, madame? Les gouverneurs, là, qu'on a nommés, ils se jouent. C'est pour cela que je demande une grande politique de régionalisation active qui va consister à ce que nous prenions le temps de mettre en place des véritables structures.
On va devoir conclure. Un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
En un mot, ayez l'espoir. Ayez l'espoir. Je trouve un pays qui a la ferveur dans l'espérance. Mais l'espérance doit être accompagnée par de véritables actions. Je sais, nous passons aujourd'hui des moments très difficiles. Mais la Providence nous a donné la force, l'intelligence. Si nous voulons nous en sortir, mettons-nous ensemble avec des véritables. Vous savez, la création du monde, c'est un plan de Dieu. Comme la reconstruction du Congo doit être un plan des Congolais.
Merci, monsieur Frédéric Boyenga Bopala, docteur en droit international européen, président de l'Union pour la République Mouvement National. Merci à Paul Badiana Makité à la prise de son, micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.